j'ai fait du ski à haut niveau. Tu me pièges, hein?
Non.
T'es en train de dire des choses. T'es en train de me dire des choses passionnantes et intéressantes.
Je ne sais pas si elles sont passionnantes ou intéressantes, mais moi, je suis issu d'un petit village des Hautes-Alpes qui s'appelle l'Argentière-l'ABC, en dessous de Briançon. Je ne sais pas si tu connais ce,
ah ben un peu, oui.
Ce petit paradis. Donc les parents étaient boulangers-pâtissiers. Donc le problème qu'il y a eu, c'est que quand j'ai eu 11 ans, j'étais tellement doué en ski qu'on m'a envoyé dans le premier ski étude de France, c'était à Barcelonnette. Et donc là-bas, je suis tombé sur plein d'amis, entre autres Marc Garcia, qui a été manque de peau, ça a été celui qui faisait de la compétition avec moi. Par la suite, ou très jeune, il a été 18 fois champion du monde de ski. Et là, maintenant, il coach des jeunes, dont une jeune japonaise, Hélène. Donc, il est régulièrement invité au Japon, parce qu'il a été au Japon, c'était vraiment une gloire. Hein. Il avait des affiches qui faisaient de son portrait de 18 mètres, 20 mètres de haut. Et c'est resté un ami d'enfance. Voilà. Je parle de lui parce que... Ah ben non, je peux pas faire le raccourci par rapport à... Tu m'embêtes là. Tu m'as parlé de quelqu'un. Et lui, il est très ami avec un de ses grands amis à lui. Alors, je sais pas si je peux citer.
Allez, vas-y, lance-toi. Donne-toi le droit.
Le droit de tout dire ?
À ton âge, tu as le droit maintenant.
Non, tu m'as dit pourquoi tu étais là, comment tu es arrivé là.
C'est ça. Exactement. Là, c'est un vrai bonheur, comme un vrai rêve, une fierté d'être présent sur le Festival de Cannes, parce que je fais aussi le Festival d'Avignon, le Festival Lumière à Lyon, évidemment. Mais c'est autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse à Cannes, le plus beau souvenir que j'ai, par exemple, l'an dernier, c'est le type qui avait une perche de 16 mètres et qui nettoyait les carreaux du palais. Il y a 4 ans, je me rappelle quand un service presse m'appelle, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Mais je suis au moins deux. » Qu'est-ce qu'il y a au moins deux du palais ?
Oui. Oh, j'y ai travaillé pendant 3 ans.
Il y a les cuisinières. J'ai été voir les cuisinières qui font à manger. Il y a 3 ans, j'ai capté le type qui passait l'aspirateur sur le tapis rouge parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est tout le travail de fond. Là, par exemple, c'est vrai que tout le monde va arriver mardi.
Je me rappelle de l'ancien directeur du Palais des Festivals. À l'époque, quand on posait les moquettes au sol dans le Palais des Festivals, on faisait les incrustations. Monsieur Erlenbach. Un monsieur charmant. Et il passait avec son gros cigare, tranquille, à 4h du mat. Et puis, il posait un genou à terre, un grand costaud. Et puis, il avait toujours un mot gentil pour nous. Et ça, c'était sympa. Donc, moi, à 4h du matin, j'ai toujours été prêt à réveiller tous mes gars. Et tous mes gars se sont réveillés. Et comme ça, on a tourné avec toute mon équipe.
Attends,
ma petite équipe, à un moment donné, quand on était arrivé à 10, y en a un qui était toujours un peu revendicatif, un ami que j'avais depuis pas mal d'années. Enfin, une dizaine d'années, et il me dit là on est 10 et il faudrait un responsable du syndicat, il faut créer un syndicat. Donc je leur ai dit allez-y, si vous voulez un syndicat, allez-y. Et ils m'ont tout simplement dit mais c'est toi le responsable du syndicat. En tant que patron de l'entreprise, c'est émouvant. Voilà. Après, j'ai eu l'occasion de me faire une belle maison, d'acheter une vieille maison et de la rénover à Mougins. Et là, j'ai une belle piscine avec un grand débordement. Les premiers qui ont mis les fesses dedans, c'est tous mes employés. Tous mes employés avant moi. Et à l'époque, quand on faisait un FIF, on était 15-16. Donc allez, on a tous fait la bombe là-dedans et c'était super sympa. Après, mon peintre en lettres, en voulant les surprendre, je monte à l'étage de la maison. Et ce qui se passe, c'est que pour leur faire un petit clin d'œil, j'ai toujours porté le jean tranquille, plutôt cool. Et ce qui s'est passé, c'est que... Je monte pour leur faire la surprise, costard, cravate, nœud pape. Et quand je descends, tu peux pas savoir ce qui s'est passé. Ils s'étaient habillés en homme grenouille. Ils avaient un poulpe vivant. Ils ont fait un lâcher de poulpe vivant dans la piscine. La belle piscine, hein. 13 mètres de long en arrondi, dessiné par... Voilà, et avec un débordement de 10 mètres. Et on a fait une fête de folie qui a duré 2-3 jours. Voilà.
Ah, attends, il y a un truc que je comprends pas.
De leurs enfants, il y a toujours voilà.
Il y a un truc que je saisis pas.
Moi je suis compliqué parce que j'ai tellement fait de choses.
Mais justement, attends. J'ai tellement envie d'en parler. Si j'ai bien compris, comment dire.
Et je tombe sur toi.
Oui, c'est un vrai bonheur pour moi. Alain, direct en jeu, Radio Insolite. Or t'es insolite, il y a pas mieux, hein. Oui, oui. Je comprends pas. Famille boulangère.
Oui.
Mais t'es une erreur de casting ou quoi, toi ?
Oui, ce qui s'est passé, je suis né dans une famille de boulangers-pâtissiers. Le matin, avant d'aller à l'école, même tout petit, je traversais le pont, j'allais chez le laitier, je prenais 10 litres de lait. Quand j'ai grandi, j'en prenais 20. Et quand je rentrais des cours, eh ben, je servais les gens. On me retournait une petite caisse pour que j'arrive à la hauteur des caisses. Ceux qui voulaient des chocolats, je les prenais un peu en décalé. Ceux qui voulaient du pain vite fait, j'arrivais à les servir, etc. Donc, et après, je sautais dans la voiture de mon grand-père ou des employés qui livraient dans les petits villages les petites mamies, les petits papis. Et mon plaisir, c'est de leur amener en plus le lait, le journal. C'est, voilà, c'est le petit extra de la boulangerie et et mes plaisirs et ma vie. Voilà.
Qu'est-ce que tu fais là maintenant ? Tu as changé de métier ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'étais moyen à l'école, mais bon, voilà. Et j'étais à l'Argentière et j'ai fait une dizaine d'années de compétition de ski et on me trouvait exceptionnel. Donc, c'est là où je suis parti au ski-études. Du ski-études, j'ai fait 3 ans de ski-études et après, tous mes potes sont partis en équipe de France. Moi, au 100e près, mais je voulais pas. Je voulais repartir sur Briançon. J'avais mes amis, copines. Donc, je suis revenu. J'ai fait une seconde technique. Ça me plaisait pas. Je suis retourné dans la boulangerie familiale. La boulangerie familiale, ça a duré un petit peu. Puis, je voyais les parents s'engueuler. Il y avait une vingtaine d'employés, X serveuses, enfin, tout ce que tu peux t'imaginer de sympa. C'était une bonne ambiance, mais beaucoup d'heures et beaucoup de on me faisait faire les décors des vitrines que je faisais au feutre, au pinceau. Après, on me faisait faire les petits sujets en pâte d'amande. J'ai créé plein de pièces. Et donc, j'ai été plus créatif qu'autre chose. Ce qui me décevait un petit peu dans la créativité, le problème qu'il y a dans la créativité, surtout quand on crée un gâteau, quand on crée un mets superbe. Je faisais des gâteaux à étage qui faisaient plus d'un mètre de haut. J'étais jeune, mais j'avais cette passion. C'est qu'après, le gâteau, il est mangé. Et ça, je ne supportais pas. Et je me rappelle, quand je m'occupais, par exemple, on avait les grands-parents, c'était les premiers à avoir les premières grosses machines à pâte, toutes rouillées, qui étaient énormes, qui faisaient 2 mètres par 1 mètre, qui étaient énormes. Donc, et à l'arrière, il y avait toutes sortes de produits, dont l'ail. Alors, quand j'allais trier l'ail, à l'arrière, il y avait un endroit, une caisse pour l'ail, pour faire les pizzas. Et je triais mon ail, et puis je regardais mon oncle qui était derrière, Paul Saille, et qui était artiste peintre. Et non seulement artiste peintre, mais il était peintre en lettres. Et je le regardais, alors dès qu'il avait bu son petit verre de blanc, ben, le pinceau bougeait plus, quoi. Il était stabilisé à partir de 11h, et ça y est, il peignait. Il avait la Vespa, il avait équipé en V pour y transporter les vitres. Donc il transportait son verre, il était à la fois miroitier, peintre, et il peignait à main levée. Donc petit à petit, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Donc à un moment donné, c'était un peu tard, mais je dis, je vais passer le concours. Sans le dire aux parents, j'ai passé le concours des Beaux-Arts, que j'ai réussi. Puis j'ai fait une année, j'ai eu mes unités de valeur, 12. Une autre année, les 12, pareil. Et puis après, j'ai commencé la troisième année, puis je commençais à m'ennuyer. Et je suis venu sur Cannes, où il y avait un petit local de 60 mètres carrés qui appartenait à mon grand-père. Et là, j'ai commencé à vouloir. Je rajoute pas, je suis pas un mytho. Ça a été comme ça. J'avais une envie, c'était de décorer les planches à voile. Pour décorer les planches à voile, en tant qu'artiste, je me suis installé en tant qu'artiste libre. J'ai créé le nom H2O. Je dis c'est pas mal parce que mon idée c'était de décorer les planches à voile. Pour décorer les planches à voile. Ce qu'il faut faire et savoir faire de la planche, je ne savais pas. Mais par contre, il fallait chaper des planches à voile. Donc je suis devenu chapeur de planches à voile. Donc j'ai chapé du pintail, du queue d'hirondelle.
Ça veut dire quoi, chaper ?
Je coulais mes blocs de mousse, je dessinais mes gabarits sur les côtés. Et après, le chape, c'est quand on a le dessin de la planche par-dessus et sur les côtés. Et qu'après, on commence à raboter avec le fil chaud que je m'étais fabriqué, avec les vieux rabots. Et on commence à affiner jusqu'au 000. Après, je sortais mon aérographe que j'avais ramené de l'école des Beaux-Arts. Parce que j'adorais. Là, je peux faire encore une parenthèse ou pas ? On n'en a plus fini là, c'est un secteur.
Je me régale en ce moment.
Alors, c'est une longueur, je suis désolé.
Non, au contraire.
Pour l'histoire de l'aérographe, voilà, j'adorais l'aérographe. À l'époque, un aérographe, avec les Beaux-Arts, j'avais un prix.
Attends, on est d'accord que l'aérographe, c'est le ballon qui vole dans l'air. Hein.
Non, c'est le petit pistolet et j'avais un double action, c'était un pache à l'époque. Ah. Quand tu appuies, tu as de l'air, quand tu tires, tu as la peinture. Avec le doigt, tac, 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 c'est tout petit. Et on peut faire des petits décors très très précis. Et donc quand je me suis retrouvé à Cannes, je sors mon petit aérographe. Et là, j'avais pu peindre quelques vitrines du parce que j'étais arrivé à un moment donné à la période de Noël et j'ai commencé, on m'a demandé, un copain qui avait un bar à Cannes m'avait demandé de faire les décorations de... Tout se tient, excuse-moi, je te parle de ça, mais tout se tient. Il m'avait demandé de décorer une vitrine. Donc j'ai fait un Père Noël, deux, trois, après on voulait un lapin, un canard, voilà, tout ce qui tombait, une petite princesse. Tout Walt Disney y est passé, j'ai fait toute la rue d'Antibes, j'ai fait la rue Ménadier. Quand les gars fermaient le rideau, ils voulaient que je peigne après les rideaux métalliques. Après les rideaux qui s'ouvraient de gauche à droite, on a voulu que je les peigne. Après j'ai commencé à faire des enseignes et très rapidement j'ai gagné des sous. Quand j'ai gagné des sous, j'ai pu m'acheter, ce que je n'avais pas au Beaux-Arts, le compresseur qui allait... avec, parce que le petit compresseur, le Sealer 50, à l'époque, il coûtait 3500 francs. Je ne sais pas si ça correspond à quelque chose. Mais... Et à l'époque, ce que je faisais, j'avais la combine d'un gars des Beaux-Arts, un Égyptien qui était super sympa. Et il m'avait dit, tu trouves une chambre à air, tu trouves le premier garage, il te le gonfle. Donc j'avais une chambre à air de camion. Et je montais ma chambre à air de camion sous les toits à Aix. Et je peignais avec l'air qui restait. Donc, quand il n'y avait plus d'air, je m'asseyais sur ma pompe et je peignais mes toiles. J'ai fait des toiles tellement grandes qu'à un moment donné, il a fallu les sortir et passer dans les cages, faire tout en toiture, de passer des toiles de 5 par 3 que j'avais fait à l'intérieur et les sortir et les passer par des cages d'escalier voisines. Voilà, le parcours il est un peu celui-ci. Et je me suis peut-être un petit peu perdu, mais après, donc, vu que je décorais et qu'on m'a demandé à un moment donné de... les planches à voile, elles étaient magnifiques, mais étant pas surfeur, il me manquait un petit truc. Alors j'ai eu des champions qui sont venus à l'époque de Nash, tout ça, et qui sont venus, qui m'ont acheté des planches de saut, qui étaient super légères, mais avec des écailles, on pourra les filmer un jour, j'en ai encore 5. Avec des écailles de poisson, elles étaient toutes nommées, et avec toutes des décos bien précises, jusqu'à faire les premiers surfs des neiges. Là aussi, c'est encore un secteur que je te montrerai à l'occasion, s'il y a l'occasion de faire un petit bout de film là-dessus. Donc, et après, finalement, de peintre en lettres, je suis venu décorateur et j'ai commencé à décorer. On m'a fait décorer un camion, puis deux, puis des vannes, puis, et j'ai fait de la déco pure et dure. Je faisais des ATC avec des visages. J'ai travaillé pour les Armats. C'est des bikers un peu violents qui étaient sur... J'ai travaillé un peu sur la moto de Johnny indirectement avec celui qui travaillait dessus parce qu'il ne connaissait pas trop. Moi, sortant des Beaux-Arts, j'avais des compétences. Donc la moto, la Lorelei de Johnny, j'ai mis ma main à la pâte. Mais après, j'étais capable de faire des visages sur des motos. Je faisais les nacrés, je faisais le barbelé. Je sais faire ça. J'ai appris aux Beaux-Arts. Voilà. Il m'a fallu du temps, mais voilà, j'ai appris. Je me rappelle, à l'époque, étant jeune, j'avais déjà une série de toiles et d'aquarelles. On m'avait envoyé voir un peintre, Yatrides, qui était très connu aux États-Unis. Et quand il m'avait envoyé dans une... Je ne l'ai pas vu en direct, mais on m'a envoyé chez quelqu'un, un amateur d'art, et à Fort-Calquier. Et je suis arrivé avec toutes mes toiles, toutes mes petites peintures et tout. Et le gars, il me regarde, il dit... et j'allais le voir pour savoir si j'étais apte à aller aux Beaux-Arts, si j'avais une chance. Il voit tout mon travail, il me dit, mais ce que tu fais, c'est de la merde. Alors quand t'es jeune, tu prends ça, paf, dans les dents. Donc, il continue sa phrase, il me dit, mais par contre, je te souhaite d'aller aux Beaux-Arts. Et là, j'ai repris le sourire. Toutes ces toiles, je les ai mises de côté, elles sont enfermées. Et c'est vrai qu'il manquait tout. Il manquait la justesse, les proportions, les perspectives. Il n'y avait rien d'aligné. Et il manquait tous ces jeux de lumière que j'ai appris, tout ce travail de perspective, parce que j'adore la perspective. J'adore l'architecture. J'aurais aimé faire du storyboard aussi. Donc là, il y a Dino Rosso, c'est un ami à moi qui est sur Cannes. J'avais commencé à faire un storyboard pour faire un manga. Et j'ai lu son livre qui est passionnant. Et à chaque fois que je lisais son livre, quand je parlais à Dino, je lui dis, mais ton livre, je suis obligé de... J'ai tellement d'images qui me viennent, j'aimerais le dessiner, le peindre. Et donc j'ai commencé pendant un an à faire du storyboard. Alors on change de page, on part de la fin pour le manga. Et après, il ne voulait pas trop me divulguer certains personnages parce qu'il a vécu dans un certain milieu. New York, les États-Unis, le Japon, un milieu un peu particulier. Donc il ne me donnait pas trop de descriptifs. Donc j'ai imaginé des personnages. Puis à un moment donné, ça me prenait trop de temps, donc j'ai ça sous le coude. Si un jour j'ai le temps, je poursuivrai. Parce que Dino, il est super, c'est un gars super, voilà, qui est génial, qui me fait rêver. Et je peux te parler encore de plein de choses, mais je sais pas.
Alors moi, j'ai une question quand même. M'en veux pas sur la question. Vas-y. À l'époque, t'étais d'avant-garde ?
Ah mais complètement. Mais j'étais un fou. Surtout qu'à chaque fois que je chapais mes planches, à chaque fois que je coupais mes planches avec du fil chaud, à un moment donné, j'avais fait un personnage sur une vieille chaise que j'avais trouvée. Et un personnage très futuriste avec des images vraiment folles. Et tout en résine, les blocs étaient peints et je l'avais mis à l'entrée de mon atelier. Donc il y avait déjà cette accroche. Quand il a fallu déménager, vu que la pièce ne rentrait plus nulle part, elle faisait presque 2,50 m de haut, je l'ai tout simplement brûlée dans la rue. J'ai mis le feu et elle a disparu. Alors les vidéos sont peut-être quelque part, je ne sais pas, parce qu'à l'époque on n'avait pas trop de vidéos, on n'avait pas trop de téléphones. Mais c'était en 86. Pour la petite histoire, là j'ai fait artiste libre, planche à voile, artiste libre. Et après j'ai travaillé, j'ai eu l'opportunité de travailler avec quelqu'un du Palais des Festivals, Richard Vassiliskov, qui malheureusement c'était mon ami, avec qui on a fait tous les concerts, des Stones, tous, on les a vus, les Led Zepp, tout. On a fait tous les concerts, Bowie, et malheureusement qui nous a quittés il y a quelques années. Donc je suis toujours voilà, c'est toujours le parrain de ma fille, qui bosse chez H2O maintenant, Marion. Une super chanteuse, voilà, qui vit avec Jude Todd, un chanteur anglais, qui est super aussi. Donc, je rebondis parce que il y a beaucoup de choses à dire.
Mais c'est très riche. Non. Ce qui est intéressant, parce que moi, j'allais te poser la question, comment ça se fait qu'on se retrouve à faire la bâche du Festival de Cannes et au Palais des Festivals? Et tu viens d'expliquer ton parcours, qui est très, très riche.
Il est raccourci, mais bon, c'est un peu ça. Voilà. Après, avec Richard, j'ai travaillé dans le Palais des Festivals. Ils m'ont embauché, c'est monsieur Crochet qui m'avait embauché, le directeur, et qui m'avait donné un super salaire. Il adorait ce que je faisais, mes peintures, j'étais bien payé, j'étais moitié mairie et moitié palais, hein, c'était voilà, économie mix. Et donc j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai travaillé dans les sous-sols, et c'est là que j'ai commencé à faire les premiers panneaux pour le Festival du Film à l'époque. Alors c'était le, je sais plus combien, le 40. Je sais plus, le 40e ou le, je sais plus.
C'est le 78e cette année pour.
Ouais, c'est vieux maintenant. C'était de 83 à 86. Donc tu vois la différence. Donc j'ai fait beaucoup de décors. J'ai fait les décors sur scène. J'essaie de mettre mon talent à chaque fois et surtout de leur proposer à l'intérieur des choses qui n'étaient pas faites à l'époque. C'est des emplacements de publicité qui n'existaient pas et le dos des marches à l'intérieur, des contre-marches qui n'étaient pas faites à certains endroits, des images dans la rue intérieure et j'ai décoré un peu comme ça de partout, quoi. Il y a eu plein de décors. Et puis à un moment donné, j'en ai eu assez, j'ai voulu m'installer à mon compte. Donc je suis ressorti, j'ai créé H2O Publicité cette fois. C'était plus H2O, mais H2O Publicité. Et là, petit à petit, je suis retourné voir M. Crochet parce que j'avais eu mes 3 cartons rouges, parce que j'étais repris là, mais je ne voulais plus rester, c'était plus possible. J'avais envie de dépasser tout ça, j'en avais marre de peindre et les toilettes, et les. Je faisais tout, hein. Je faisais les toilettes, les moquettes, ce qu'il y avait à faire. Quand il n'y avait pas de la déco, il y avait... mais ça me gêne pas. Moi, j'ai commencé pâtissier et mes parents, j'étais tout petit, 7-8 ans, je grattais déjà les plaques, j'épluchais des kilos, des tonnes de pommes, je grattais le sol, je faisais la plonge, on me retournait des caisses, je faisais la plonge. Le travail, franchement, c'est voilà, j'adore ça, quoi, ça ne me gêne pas, j'ai pas honte de ça. En plus, on était dans un milieu, la boulangerie-pâtisserie, elle était dans un milieu, c'était un milieu ouvrier. C'était la première usine Kuhlmann d'aluminium. Et il y avait de tous les pays. Il y avait des Polonais, des Turcs, des Russes. Je me rappelle, des Turcs. Il y avait beaucoup de Marocains, Tunisiens. D'ailleurs, dans mon équipe, j'ai des Tunisiens qui travaillent avec nous. Et j'ai même un Breton, je suis désolé, hein. Gilles Blaïc qui est adorable. Hein. Gilles, ne m'en veux pas. Si
qu'est-ce que t'as contre les Bretons?
Ouais, non, mais je l'adore. Hein. C'est un gars qui est super. C'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un
de super. Question gentille maintenant, t'es prêt?
Oui.
Artiste peintre, artiste libre. Ça te choque pas d'utiliser des techniques du troisième millénaire pour faire des bâches et pour faire tout ça?
Mais c'est fantastique. Mais c'est superbe. Mais c'est génial. C'est pas ça. Au tout début, ça a commencé comme ça. Je peignais quand je faisais des décors sur les véhicules. Quand on m'a demandé, tiens, tu peux faire un visage, tiens, tu peux me faire le robinet du plombier, tiens. Et je faisais tout à la main. C'est-à-dire mes calques, première couche, deuxième couche, etc. Sur les bois, c'était pareil. Un bois, tu le prends brut, tu l'enduis, tu mets tes produits, tes accroches, tu mets ta première couche, tu attends que ça sèche, la deuxième, la troisième, etc. les panneaux dans les rues pour les menus, les panneaux, etc. La première petite machine que j'ai achetée, c'était une petite machine, c'était une Edge. Ils l'ont jetée il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai su qu'ils l'avaient jetée, tu vois, j'ai pleuré pour mes enfants, j'ai pleuré pour beaucoup de choses. C'est des belles larmes que j'ai en général. Et quand on m'a dit que la Edge, on l'avait jetée, je suis prêt à en racheter une. Elle est obsolète peut-être, mais pas obsolète. Parce qu'on avait des racks, elle, c'était une thermo-impression. Et là, on avait la possibilité, c'était sur des films de 28 cm de large, à picot sur les côtés. On imprimait, on passait le jaune. Alors, si on aime, la machine, elle passe à 2 à l'heure. Hein. Elle passe, elle t'imprime le jaune. Tu changes la cartouche, elle te fait le magenta, elle te fait le bleu, elle te fait le noir. Si ça plante en cours de route, tu recommences tout. Donc imagine pour un 4 mètres par 3 en laisse de 28 cm de large. Par contre, les petits picots, quand je faisais un robinet pour un plombier, je reviens à ça parce que c'est un des derniers travaux que j'ai fait, ou voilà. Donc je l'imprimais, clac, alors ça imprime une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, les quatre couleurs. Je change de machine et avec les picots, j'ai un petit plotteur de découpe qui me découpe le robinet à la forme. À l'époque, j'ai eu travaillé sur des gros camions. C'est pas Alpes Sud, c'est les camions du Sud, où je faisais l'avant du camion avec le désert, des Touaregs. Je sais faire ça. Pour moi, c'est facile. Et là, je me suis retrouvé. Le petit plombier, c'était pas un petit plombier, c'est-à-dire lui, il avait une vingtaine de voitures. Donc, si tu fais trois fois le robinet par véhicule et qu'il y a 28 voitures, là, tu es content quand ça imprime direct. C'est dans ce sens-là. Après, tu peux toujours faire une création. Une impression numérique, tu peux toujours la décliner comme tu veux, tu peux y rajouter des touches personnelles en peinture dessus, je peux faire une peinture à l'huile, la prendre en photo et qu'après elle soit retravaillée, c'est pas un problème ça, si je sais que c'est réimprimé derrière. Et là dans mon travail personnel, maintenant je suis plus que sculpteur et peintre, j'aurai l'occasion de te montrer quelques toiles que j'ai réalisées par le biais du numérique, par montage numérique, sur lequel après je suis revenu en peinture, chose que je peux faire en peinture. Mais qui est amusant aussi de pouvoir comme ça dupliquer, parce que je peux changer le format, je peux changer le support. On a des machines qui sont capables d'imprimer sur des tables, tu vois, sur des portes. Tu vois une porte nervurée qu'on achète à Casto qui est à 28 euros, tu me l'amènes chez moi, on enlève le poignet, on la passe dans la machine, en un quart d'heure c'est fait. Par contre avant, si tu me dis, tiens, est-ce que tu as une belle photo? Est-ce que tu as une belle peinture de ta fille, de ton fils? J'adore, je vais croquer l'enfant. Et là, je le prends en photo. J'ai un ami, Roro, il s'appelle. C'est un photographe professionnel qui me fait des photos superbes. À l'occasion, c'est l'une des photos que je t'ai montrées du cheval avec les 16 000 coups de tapissier. Et là, c'est un soleil, quoi. Tu as de la belle photo. Derrière, il y a de la belle impression. Les impressions qu'on a actuellement, ça a évolué. À l'époque, on avait un pixel de fou. Mais malgré le pixel, je me rappelle une fois à l'époque, et là, on va jamais se quitter, je peux te parler pendant 2 ans. On avait fait à l'intérieur du palais, à gauche et à droite, quand on rentre, la rue intérieure. On avait des fichiers de la calasse en noir et blanc qui mesuraient 4 par 4 ou 5 par 5. Et plus de délai, j'avais plus le choix, il y avait, fallait imprimer. Et je leur avais expliqué, je leur avais dit, c'est quand on travaille sur un noir et blanc, quand il y a du pixel, s'il y a de la distance, on gagne en qualité. Alors, à force de l'expliquer, c'est comme la toile qu'on a là, elle a 7 dpi en qualité, ou 10 dpi maximum, 10 dpi. Alors qu'on travaille, ceux qui sont sur leurs ordinateurs, en taille réelle, je suis à 7 ou 8 dpi. Et là, au dernier moment, on m'envoie les gros fichiers sur Ektachrome qui arrivent de Paris, sur des... Parce qu'on travaille avec du beau, hein. Des fois on a des fichiers, il y a deux gars qui t'accompagnent, tu t'en sers, tu leur rends, tu remets dans la boîte feutrée, ça repart. Comme les photos, j'ai fait une expo avec Gilles Traverso ici, au Palais des Festivals. Il a des photos magnifiques, on a fait des photos superbes. Mais là, dans ce cas-là, la calasse, le visage de la calasse, imprimé à ma façon, a bien contrasté avec des pixels, mais c'était des carreaux, des petits carreaux, une mosaïque. Dès qu'on prenait du recul, en parallèle, il devait y en avoir 2. Le dernier cliché, on l'a installé, qu'on avait refait. Et quand on a vu les 2, on m'a fait déposer le dernier fichier. Et on est reparti là-dessus. Je l'ai appris au Beaux-Arts. C'est au Beaux-Arts, le premier cours qu'on m'a dit, la première leçon dans la couleur, j'aimais tous les secteurs. Hein. que ce soit la forge, j'ai tout découvert. Et des gens formidables et des professeurs super. Le premier truc, on arrive, il y avait trois classes de 28 ou 30. Et on nous demande à chacun de prendre une trentaine de feuilles chacun et de reproduire le rouge Coca-Cola. Alors tu imagines, 30 personnes, chacun 30 essais de rouge Coca-Cola. Personne n'a trouvé le rouge Coca-Cola. Parce que c'est particulier, ça fait partie d'eux, voilà. Alors quand tu es dans ce milieu-là, tu apprends à observer, et puis en plus les leçons étaient magiques, c'était superbe, je me suis régalé. J'ai plein d'amis, Denis Vedelago qui est sur Grenoble, c'est un grand artiste, un superbe artiste et musicien. Si un jour, j'aimerais bien le revoir. Il avait toujours les ongles un peu longs, et quand il jouait de la guitare et qu'il chantait en italien, on pleurait tous, quoi. Et après, j'ai d'autres amis qui étaient au Beaux-Arts aussi, qui ont réalisé les... Raoul Racazzi. J'étais parti chez lui, un gars superbe. Et lui, il est devenu professionnel de fabrication de santons. À l'époque, pour se faire des sous, pour payer notre chambre d'hôtel, notre petite chambre de bonne, on allait chez Annick, et Annick, elle avait un business pour peindre les santons. Donc, qui faisait le bleu, le rouge? Alors, tu avais le petit berger. Alors, on était là, on fumait un peu ce qui passait, on s'amusait, on buvait des tequila frappés. C'était la belle vie, on était bohème. Hein. Et dans cette petite pièce, on peignait les santons. Elle gagnait un franc par santon. Un petit franc par santon. Mais des soirées fantastiques. J'ai plein d'histoires à raconter. Je sais pas. C'est compliqué, on m'a jamais trop fait parler.
Mais là, moi je me régale. Tu vas passer la main, comment dire, à ton fils? Tu vas t'ennuyer maintenant?
Eh ben...
Non, faut que je réponde coin-coin, c'est ça, non?
Si tu veux... Alors, pour la petite histoire, mon fils s'est marié à une Allemande, qu'on a vue sur les marches du palais, une jolie blonde, très sympa, Lisiane. Et le petit, qui s'appelle Lou, sa passion quand il vient voir papy à la maison, c'est les petits canards. Donc, pour ma dernière sculpture, j'ai dû créer un petit moulin... C'est long. Je suis désolé, Alain, c'est long. J'ai dû créer des petits moulins à prière, tibétains, parce que j'ai travaillé sur une pièce qui aurait dû passer pour le Festival du Film et qui n'est pas passée. Alors, je ne sais pas si tu es ami avec quelqu'un, Monsieur Frémaux, par exemple...
C'est qui?
Je ne sais pas, mais moi je connais quelqu'un qui le connaît très très bien. C'est Laurent Gérard, parce que Marc Garcia, qui a été 18 fois champion du monde, c'est son moniteur de ski et c'est son ami intime. Donc je ne sais pas si Laurent Gérard viendra ici à Cannes, ou si quelqu'un d'autre viendra. Mais mon souhait maintenant, ce serait, pour en revenir au petit canard, ce serait d'avoir, avant qu'on dépose peut-être la bâche, faire peut-être une animation au travers de ma sculpture. C'est une tête de cheval qui est garnie de 16 000 clous de tapissier, entre autres. J'ai fait une première tête de cheval, c'est la jument de ma fille. Et je l'ai fait en petit en 60 de haut, et après je l'ai réalisée en sculpture en 2,20 m de haut. Et après, vu qu'elle était toute cassée, je l'ai repris, je l'ai travaillée. Donc il y a 16 000 clous de tapissier. C'est une pièce base polyester que j'ai vieillie, que j'ai patinée, que j'ai peint, repeint. Il y a de la feuille d'or, il y a plein de choses. Sur le socle en bas, j'ai rajouté exceptionnellement pour un film, mais qui ne passera pas malheureusement cette année, qui aurait dû passer, mais j'ai eu la mauvaise information. Le film s'appelle Daoumassé, c'est l'histoire d'un berger tibétain. Et pour nourrir sa famille, il était obligé au Tibet de devenir voleur de chevaux. Et dans toute cette histoire, il y a beaucoup de moines tibétains, etc. Donc dans la partie basse, quand j'ai dû mouler mes petits moulins à prière en périphérie, il y en a 28. J'en ai dessiné un, j'en ai sculpté un, je les ai dupliqués, que tu vois sur la photo, que je t'ai montré tout à l'heure en bas. Il me restait toujours un petit peu de matière. Pour ne pas perdre la matière, j'ai pris un petit canard que mon petit-fils, avec lequel il joue, au bord de la piscine. Et ce petit canard, je l'ai dupliqué plein de fois. Et pour Pâques, quand j'ai invité toute la famille à la maison, enfants et petits-enfants, j'en ai profité pour mouler des petits canards. Donc Alain, je te dédie un petit canard que je t'offrirai. Et je pense que je le ferai à la feuille d'or, que pour toi. Et il y en aura sûrement un pour celui qui m'offrira un petit bout de tapis rouge. Alors, je ne sais pas qui, peut-être ton ami.
Je vais aller en piquer du tapis rouge. Pour information, quand il est démonté, puisqu'il est changé tous les jours maintenant, avant c'était tous les 3 jours, c'est comme un truc qui est un peu lourd. Hein. Ça fait quand même 50 kilos. Ils ne sont que 2 à déplacer le tapis rouge. Ils sont stockés au moins 1 du palais des festivals. Donc, si vous voulez vous dépêcher quand même, faire un cambriolage dans le palais, n'hésitez pas. Ça, c'est important. Je me permets juste de rappeler un truc, parce qu'on ne le fait pas en général sur le Festival de Cannes, c'est que Thierry Frémaux, l'un des premiers qu'il a appelé quand il a lancé le Festival Lumière, c'était Laurent Gérard. Et Laurent Gérard, c'est un peu le parrain de notre Festival Lumière à Lyon. Ça, c'est important et tout. Et puis, j'aurais fait aussi un petit clin d'œil à Gérard Cybelle, que tu ne connais peut-être pas. Gérard Cybelle, qui a été le patron de Nostalgie, qui a lancé Laurent Gérard, à qui je dois aussi ma carrière aujourd'hui, et qui aujourd'hui accompagne des comédiens, des comédiennes au théâtre. Il était très présent, comédien, tout au long de l'année, même sur le Festival d'Avignon. Je voulais te remercier parce que là, vraiment, moi, je me suis régalé avec toi. Et puis surtout, c'est exactement ce que j'aime, c'est-à-dire les coulisses. Là, en ce moment, on entend du bruit derrière nous puisqu'ils ont repris. C'est pas encore fini l'installation. Hein.
Oui, là, ça continue. Hein. Là, le stress va monter. Moi, j'ai toujours travaillé sur tous les salons du festival et tous les autres salons. Parce qu'après, on travaille pour les décorations de l'AMFAR avec Sharon Stone. On travaille pour le Grand Prix de Monaco. On a travaillé pour le rugby pour les Coupes d'Europe. On est capable d'aller du tout petit travail jusqu'au plus gros. Tout ce qui est signalétique, tout ce qui est covering, etc. On a même eu fait décoré. Ça rajoute encore autre chose, mais on a eu fait des décors sur la plage du Carlton. Où nous avait demandé de réaliser une patinoire. Patinoire imprimée et mon équipe piétinait, la glace se faisait au même moment, après la glace a été enfermée, mais après on peut faire une piste de danse sur un beau bateau et puis faire plein d'autres choses. Je te parlais de ça pour en revenir à le fait qu'on travaille. C'est ce que je voulais dire surtout sur le festival, on revient au festival. C'est le seul salon de l'année, j'en fais toute l'année, c'est le seul salon qui, pour nous, quand il a ouvert, il n'est jamais ouvert. Tout le temps, on nous demande vite, il y a un problème, il y a un problème, on change le sens de circulation, il y a eu des attentats, machin. Donc, il y a toutes les coulisses, on ne sait pas ce qui se passe. Mais je vous dis, on est en flux tendu avec, et on m'appelle le jour, la nuit, ils le savent. Et on intervient à tout moment. Et à tout moment, il faut faire un petit panneau sucette suspendu par 2 gars, un problème sur une plage, une toile qui s'est déchirée, ou une toiture. À un moment donné, c'était Christophe, je crois que c'était Christophe Saez qui m'avait appelé. Il était en urgence dans le palais des festivals au moment de la transformation avec le Riviera. Il y avait des petites fuites qui arrivaient. Donc j'avais sorti mes vieilles toiles et on avait fait tout un drapé dans l'extension du palais des festivals pour canaliser l'eau et qu'elle aille au bon endroit quoi, pour essayer de sauver la... Nous, on a toujours voulu sauver la mise et que le show must go on, comme on dit, hein. Voilà. En tout cas, Alain, je suis très très fier de t'avoir rencontré. Ça s'est fait bêtement, tu as vu, au pied des marches.
Totalement inattendu, totalement imprévu.
On s'est un peu chiné parce qu'il a vu ce vieux briscard qui arrive avec ses cheveux blancs et sa barbe blanche là. Et puis il m'a titillé, et on m'a jamais titillé, mais ça me fait plaisir. Tu es adorable.
Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Il y a un site internet, il y a quelque chose?
Il y a un site H2O, mais il est en construction, tout est remixé. La société, c'est H2O Publicité. Alors Marion, c'est ma fille, ou Johan, donc c'est eux qui vont répondre, ou Lisiane, ça c'est un peu la famille. Sinon, il y a toute mon équipe, c'est pareil. Et le téléphone, c'est 04 93 39 37 65. Si moi, mon perso en tant qu'artiste, c'est juste 06 11 50 51 39. Là, je fais faux bond à mon grand-père parce que je vais t'expliquer une petite histoire. Mon grand-père, du côté de mon père, ils étaient très riches. Et du côté de ma maman, ils étaient 9. Et les filles, elles dormaient. Il y avait les filles, elles dormaient 5 dans un sens et 3 dans un sens et 2 dans l'autre, dans le même lit. Tu vois, ils étaient élevés que par le grand-père. Donc j'ai connu la maman, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui est dans les Alpes, à Barcelonnette, dans le petit village de Prats-sous-Béran. Elle a 87 ans. Elle s'appelle Raymonde Soulière. Et son nom de famille, c'est Giromoine, comme le grand champion de ski que je salue, et cousin. Et je me perds vite. Et je voulais revenir sur... Je sais plus. J'étais parti loin.
Je te demandais comment dire, toi, en tant qu'artiste libre, comment est-ce qu'on fait ? C'est pas ton pouf. Tu es toi-même et tu es très bien. Je te disais comment dire, comment on faisait pour te retrouver toi ?
Ah oui, voilà. Alors, moi, c'est. Alors, ah oui, la petite histoire, c'était le 51 dans mon téléphone, 06 11 50 51 39. Je dis ça parce que, donc, à l'époque, à l'Argentière l'ABC, j'allais tous les dimanches à la messe. Après, j'ai été enfant de cœur, etc. Mais on m'habillait, souliers vernis, mal aux pieds, turale, c'est pas grave. Petit costume, la petite cravate qui va bien. Et avec mon grand-père, on allait à la messe. Sorti de la messe, on allait chez Monsieur Giraud. Alors, peut-être qu'il n'est plus là, mais ses enfants, s'ils l'entendent, bonjour à eux. Donc, on allait chez le Père Giraud. Et la spécialité du Père Giraud... Donc moi j'y allais parce que j'étais en bout de comptoir, mon grand-père était champion de boule départementale, champion de cartes et c'est un fêtard. Je l'ai eu croisé à 4h du matin dans les boîtes de nuit, il avait 76 ans, donc il était comme ça. Donc lui, ce qu'il aimait surtout le grand-père, c'était surtout le Ricard. Donc quand il buvait le Ricard, alors pardon papy, d'ailleurs j'ai quelque chose à dire sur lui. Quand il est parti, ça m'a vraiment impacté parce que j'ai fait 3 ans de Beaux-Arts. Il était sûr que j'étais en pâtisserie, donc j'ai fait les meilleurs ouvriers de France de partout. Donc j'ai fait Marseille, j'ai fait Aubenas, j'ai fait Vienne, j'étais en Angleterre, j'étais à Amsterdam, j'ai fait pas mal de belles boîtes. Digne, meilleur chocolatier. Ce parcours-là était celui-ci. Donc à chaque fois que j'allais le voir à l'hôpital de Gap. Je lui parlais de chocolat, de gâteau, et il n'a jamais su que j'étais au Beaux-Arts, et mon parcours artistique, il ne l'a jamais connu. Et ça, c'est des petites blessures, alors j'en parle maintenant, voilà. Donc, alors pour la petite histoire, quand il y avait tous ses copains qui étaient alignés au comptoir, lui, il était en bout, il s'était mis en bout. Moi, je tendais la main parce que j'avais droit, j'arrivais à peine au comptoir, et donc je prenais ma grenadine, que j'aime toujours. Avec le lait ou le pastis, mais le Ricard surtout. Et ce monsieur Giraud était un peu radin, donc il avait les petites têtes de mort qui étaient peintes sur les petits verres à pastis, et il me dit, regarde, il fait le plein, et tous les verres étaient alignés. Quand il arrive à mon grand-père juste avant, il avait tourné la petite tête de mort d'un quart de tour. Il me dit, regarde le père Giraud ce qu'il va faire. Et le père Giraud, dès qu'il arrivait au verre de mon grand-père, machinalement, il tournait le verre pour avoir la tête de mort en vue, pour pas dépasser la dose. C'est pas beau ça. Alain, je te souhaite de venir au bord de ma piscine. Je t'offre un mojito. On fera une petite vidéo de toutes mes sculptures.
Avec plaisir.
Tu peux inviter Thierry Frémaux et moi, de mon côté, j'inviterai Laurent Gérard.
Alors, juste pour info, ça, il me l'a toujours dit à Cannes. Est un tout petit peu occupé, comme hier, sur Cannes.
Après la bataille, si, ça me ferait tellement plaisir. Et nous, c'est un honneur que de travailler pour lui. Voilà. Et merci. Et merci aussi à tous mes amis, parce qu'il y a, je connais tout le monde. J'ai travaillé 3 ans dans les sous-sols. Je connais tout le monde intimement. Il y a des personnes du Palais des Festivals qui ont gardé nos enfants petits. J'étais parrain de certains, donc je ne peux pas tous les citer, mais ça part de Jean-Pierre Vidal qui s'occupe de Altech à tout le monde, que ce soit Christophe Arnoux. On a eu plein de choses ensemble. On a travaillé avec tout le monde. Il y avait aussi... Il y en a plein. Voilà, il y avait plein d'amis aussi, puis d'autres qui sont partis malheureusement. Voilà. Il y avait... Ouais. Il y en avait plein.
Merci à toi.
J'ai pas le temps. Je te fais un gros gros bisou et j'espère qu'on va aller boire un petit coup ensemble.
Avec plaisir. Alors maintenant, juste un truc. C'est dommage que vous ne soyez pas à Cannes parce que je vais faire quelque chose que vous savez, je ne ferai jamais. Je vais monter les marches, mais je ne le fais jamais. Je n'ai jamais mis les pieds sur le tapis rouge et je ne mettrai jamais les pieds sur le tapis rouge. Ce sont des gens comme toi qui me passionnent, qui m'intéressent. Voilà.
Alors,
merci.
Moi, je peux me permettre, il y aura un petit clin d'œil et c'est moi qui vais le filmer, en train de monter les marches. Et je le filme de suite. Si tu me laisses, je ne sais pas.